Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie d'abord de votre présence. Et donc nous sommes ici pour écouter aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter aujourd'hui Étienne Smith. Étienne Smith est un politiste, un spécialiste de sciences politiques et un grand spécialiste de l'Afrique, sur lequel il a écrit de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, il vient nous présenter un très beau livre qui s'appelle « Les hussards noirs de la colonie », un gros livre, comme vous voyez, qu'il a co-dirigé avec Céline Labrune-Badiane, qui, elle, est une historienne, qui, je crois, enseigne aux Antilles, c'est ça, professeur aux Antilles. C'est un livre donc qui porte sur les instituteurs africains en Afrique, sur la période de la colonisation française, mais tardive en fait, c'est-à-dire donc un livre qui s'intitule « Les hussards noirs de la colonie, instituteurs africains et petite patrie en AOF, 1913-1960 ». Et donc je vais tout de suite demander à Étienne Smith s'il veut bien nous éclairer à la fois sur le titre, donc « Les hussards noirs de la colonie » et sur le sous-titre de cet ouvrage, ce qui nous permettra d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien.
Merci Claire pour cette présentation et merci à la librairie Mola pour cette invitation. Alors pour le titre, ça a été un petit peu un jeu de punching ball avec l'éditeur, mais à la fin on est arrivé donc à ce titre, « Les hussards noirs de la colonie, instituteurs africains et petite patrie en AOF ». Alors pourquoi ce choix de titre? Pourquoi les hussards noirs? Parce que l'idée était de faire un clin d'œil un peu ironique. Bon, tout le monde connaît l'expression « les hussards noirs », ces instituteurs de la Troisième République. Et là, on s'intéresse à des instituteurs de la Troisième République, mais en Afrique occidentale française. Et ceux dont on parle dans son livre sont en majorité des instituteurs africains. Donc ce sont des hussards noirs, vraiment noirs si vous voulez. Et donc on faisait un petit clin d'œil pour montrer qu'on va s'intéresser à tous ces acteurs de l'école coloniale en Afrique, et en particulier donc ceux qui étaient majoritaires, et j'expliquerai pourquoi, les instituteurs africains. Pourquoi je dis qu'ils étaient majoritaires? Parce que dès 1912, en fait, en Afrique occidentale française, l'enseignement se structure à partir de l'enseignement public à partir de 1903, et dès 1912, les instituteurs africains, en grande majorité sénégalais à l'époque, sont déjà majoritaires dans l'enseignement. Il y a effectivement des instituteurs métropolitains qui sont là, mais qui sont numériquement inférieurs. Et sur toute la période qui nous intéresse, donc dans le livre de 1913 à 1959, c'est effectivement, dans des proportions différentes, les instituteurs africains qui, en fait, font tourner l'école coloniale en Afrique. Donc, il fallait faire ce petit rappel, parce qu'on a souvent l'image un peu carte postale de l'instituteur blanc avec son casque colonial et ses élèves africains noirs. Il y a effectivement de ce genre de situation, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et le terme « petite patrie », alors là, ça fait encore référence à des débats historiographiques sur l'histoire de France, mais c'est pour rappeler, un peu dans la lignée des travaux de Jean-François Chanet ou Anne-Marie Thiès ou François Plou sur les instituteurs, notamment en Bretagne, que l'école de la Troisième République, contrairement à l'image qu'on en a, n'a pas été si, ou en tout cas pas tout le temps et pas partout, si jacobine qu'on l'imagine, n'a pas été toujours dans l'éradication des langues régionales et dans l'inculcation d'une forme d'universalisme parisien, etc. Il y avait, au sein de cette école de la Troisième République, des façons de faire qui étaient beaucoup plus basées sur la philosophie de l'enracinement, en fait, et l'idée de partir du terroir, de la petite patrie des élèves, pour les amener petit à petit au développement du sentiment national et l'attachement à la grande nation France. Donc ça avait été très bien montré pour le cas de la France. Nous, l'objectif, c'était de montrer que c'était aussi le cas, en fait, dans les colonies, en l'occurrence, en Afrique occidentale française, cette idéologie pédagogique des petites patries a circulé dans les colonies avec des acteurs de l'enseignement, comme par exemple Georges Hardy ou Albert Charton, un inspecteur de l'enseignement à l'époque, qui ont été pétris de cette idéologie des petites patries et qui, quand ils étaient en charge de l'enseignement en AOF, ont développé aussi cette idéologie et ont incité les instituteurs africains à enseigner le milieu local, et non uniquement à enseigner l'histoire de France, etc. Et donc, c'est un peu une façon, dans ce livre, de tordre le cou à l'idée que l'école dans les colonies visait uniquement l'assimilation. On montre, au contraire, qu'elle a constamment, avec des différences dans les périodes sur lesquelles on pourra revenir, cette école coloniale a constamment voulu enraciner les élèves dans leur milieu local, plutôt qu'enseigner l'assimilation. Donc ça, c'était un peu, voilà, pour aller contre l'image qu'on a de nos ancêtres, les Gaulois, qui est une image, en fait, assez fausse, en tout cas pour l'AOF et la période qui nous intéressait.
Alors vous dites, et c'est très intéressant, que les instituteurs africains sont donc majoritaires. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi? C'est un problème de moyens? C'est une volonté? Est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce que c'est quelque chose de voulu par le colonisateur ou est-ce que c'est un petit peu empirique, pragmatique ?
Alors, il faut voir que l'école, effectivement, quand elle se met en place au début du XXe siècle, je parle là encore de l'école publique, parce qu'il faudrait parler de l'école missionnaire, les écoles chrétiennes, dont Claire Allot est une spécialiste pour une autre région du monde, sont aussi présents en Afrique occidentale française, notamment au Dahomey et en Haute-Volta. Mais moi, pour ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'était l'école publique. Et cette école publique doit faire de briques et de brocs. Elle n'a pas beaucoup de budget, les moyens sont limités, puisque les colonies doivent être plus ou moins autosuffisantes en termes de budget. Donc les budgets étant limités, recruter du personnel d'enseignement africain, qu'il soit moniteur ou instituteur, tout simplement coûte moins cher, puisque les instituteurs africains étaient payés deux fois moins cher, deux fois moins que leurs homologues métropolitains pour à statut égal. Puisqu'il y avait en fait un cadre hiérarchique, le cadre dit indigène et le cadre dit européen. Et donc, en fonction de son origine, on était dans un ou des deux cadres, et les salaires n'étaient évidemment pas les mêmes. Donc, en développant le cadre indigène, plutôt que le cadre européen, les autorités font des économies, tout simplement. Mais c'est aussi qu'il y avait, dans les quatre communes du Sénégal, donc quatre villes, Saint-Louis, Dakar, l'île de Gorée et la ville de Rufisque, c'était des villes qui, dès le 19e siècle, au Sénégal, avaient une culture urbaine développée, des écoles nombreuses, etc., des élites assimilées et métisses nombreuses. Et il y avait donc, depuis cette deuxième moitié du XIXe siècle, quantité d'instituteurs sénégalais formés avant même l'installation, si vous voulez, de la colonisation officielle, qui avaient été formés dans ces écoles et qui étaient donc avaient eux-mêmes été devenus instituteurs de la génération suivante. Donc il y avait cette main-d'œuvre enseignante sénégalaise présente, disponible, pour en masse être présente dans les écoles que les autorités développent à partir de 1903. Mais juste un petit rappel de proportion, savoir de quoi on parle. La scolarisation à l'époque en AOF concerne une minorité, bien sûr, d'élèves africains. On parle de 5% pour la période avant 1940. 5% uniquement d'une classe d'âge était scolarisée. Donc on voit bien que c'est quelque chose de tout à fait limité dans les ambitions et dans les résultats. Et au moment des indépendances, donc vers 1960, on arrive pour l'AOF autour de 13% de taux de scolarisation, avec des inégalités selon les territoires. Mais pour voir là encore de quoi on parle quand on parle de cette école coloniale, on parle d'une école pour une minorité et pour une élite. L'école n'était bien sûr pas ni gratuite complètement, ni obligatoire dans les colonies.
Et donc elle concernait, donc, puisqu'on continue la présentation un peu générale, elle concernait les enfants de quel âge à peu près cette école coloniale ? Comment est-ce qu'elle se structurait ? Parce que ce qui est très intéressant aussi, bien sûr, c'est que ce livre nous montre un petit peu l'articulation des savoirs entre les savoirs purement académiques et, comme vous l'avez très bien dit, les savoirs visant à ancrer quand même dans un patrimoine, tout ce qui est patrimonial par rapport à tout ce qui est, on pourrait dire, colonial. Et donc voilà, comment est-ce que ça se présentait un petit peu, cette école coloniale ? Comment est-ce qu'elle se structurait ?
Alors, il y a encore une distinction à faire avant de répondre vraiment à la question des classes d'âge. Il y avait deux types d'écoles en AOF. Il y avait les écoles urbaines des quatre communes du Sénégal, qui étaient ces écoles destinées aux habitants des quatre communes. Donc des habitants sénégalais, mais qui étaient citoyens français, puisqu'ils avaient, depuis les lois Blaise-Nag de 1916, la citoyenneté française, eux, ainsi que leurs descendants. Et donc, ils avaient un programme métropolitain dans ces écoles, qui était le même que dans les écoles en métropole. Par contre, pour tout le reste de l'Afrique occidentale française, donc l'immense majorité des écoles, le programme, là, était différent, c'était un programme adapté. Et l'idée était de former des paysans, des cultivateurs, ou une élite intermédiaire de commis administratifs, et pas du tout de former de futurs citoyens, on formait des futurs sujets, okay, qui n'avaient pas de la citoyenneté. Et donc, l'idée était que l'école primaire suffisait, qu'il fallait une formation assez, disons, rudimentaire, les 6 années du cycle primaire, et qu'ensuite, ils pouvaient aller retourner dans leur champ, porter la bonne parole coloniale, mais avec l'idée qu'il fallait qu'ils restent là où ils étaient, il fallait surtout pas qu'il y ait de mobilité. Il y avait un peu une hantise, en fait, des autorités, d'avoir des déracinés, et donc il fallait tout faire pour ancrer l'élève dans son terroir. Alors, les classes d'âge, en fait, c'était l'idéal prévu était comme en France, mais petit à petit, ils se sont rendus compte que c'était compliqué. L'état civil étant embryonnaire dans beaucoup de ces colonies, il y a eu quantité d'élèves, en fait, qui étaient beaucoup plus âgés que ce qui devrait être, qui rentraient dans le cycle, parce qu'on rentrait, par exemple, souvent au cycle primaire vers 9 ou 10 ans et non vers 6 ans. Aussi parce que beaucoup d'élèves passaient par l'école coranique avant et ils voulaient terminer leur cycle d'études coraniques avant d'entrer à l'école primaire. Donc souvent, les âges étaient un peu décalés. Ensuite, pour une toute petite minorité, il y avait ce qu'on appelait l'école primaire supérieure, qui était un peu l'équivalent du collège. Mais ce n'était pas du tout les programmes des collèges métropolitains, c'était vraiment des études post-primaires adaptées, là encore, à l'idée de former une élite administrative subalterne. Et ces écoles primaires supérieures étaient généralement dans les chefs-lieux des territoires. Et pour y accéder, il fallait passer plusieurs examens à la fin de l'école primaire. C'était assez sélectif. Et enfin, au sommet de cette pyramide, pour ceux qui réussissaient à passer toutes les cases de l'école primaire supérieure, il y avait l'école normale William Ponty, d'abord à Saint-Louis, puis à Dakar, qui était cette école de formation, pas uniquement d'instituteurs, pas seulement de normaliens, mais qui formait aussi les élites administratives et les médecins. Et donc ça, c'était le sommet de la hiérarchie scolaire. En AOF, les élèves africains ne pouvaient pas accéder à des études supérieures, puisque tout simplement, il n'y avait pas d'institution ou d'établissement d'études supérieures en Afrique occidentale française avant 1950, quand l'Institut des hautes études est créé à Dakar en 1950. Donc, tous ceux qui aspiraient à continuer un cursus d'excellence scolaire étaient condamnés à devenir soit instituteurs, soit travailler dans l'administration, soit médecins. Quelques-uns d'entre eux ont essayé de s'échapper à cette limitation, à ce plafond de verre. Et la façon d'y arriver était soit de demander la citoyenneté, d'être naturalisé citoyen français, ou d'avoir une bourse d'études pour aller étudier en France.
Et il y avait beaucoup de ces bourses, alors ?
Il y en avait très peu, et les autorités veillaient au grain pour empêcher certains des instituteurs d'y aller. Mais là, il faut distinguer des périodes. En fait, il y a une période entre 1920 et 1926 où une vingtaine d'instituteurs de l'Afrique de l'Ouest étaient envoyés à l'école normale d'instituteurs d'Aix-en-Provence, parce que c'est le député sénégalais Blaise Diagne qui représentait le Sénégal à l'Assemblée nationale française, qui avait fait jouer ses réseaux politiques pour ouvrir cette fenêtre d'opportunité pour que des instituteurs soient formés en métropole, parce que le niveau des écoles normales en métropole était considéré comme meilleur que le niveau de l'école normale William Ponty. Mais ça s'est assez mal passé, parce que le directeur d'école était, disons, un ancien militaire assez brutal dans ses méthodes, et ça s'est assez mal passé avec les élèves. Donc beaucoup des élèves, en fait, ont arrêté leur cursus. Certains sont partis à Paris et sont devenus des militants panafricanistes comme Thiemoko Garang-Kouyaté. D'autres sont devenus des militants politiques, proches de Lamine Senghor, etc. Et d'autres sont rentrés en AOF, où ils ont été instituteurs du cadre européen, parce que leur passage par l'école normale d'instituteurs à Aix leur donnait un statut européen et non un statut indigène. Mais souvent, ça s'est mal terminé pour eux. On constate que leur carrière a souvent fini dans l'alcoolisme, un peu dans la solitude, parce qu'ils avaient ce diplôme métropolitain, mais ils sentaient que, finalement, leur ascension professionnelle en AOF était un peu limitée. Il faut savoir aussi, peut-être dernier point sur cette école coloniale, que les autorités obligeaient, tous les 3 ans, les instituteurs à changer de localité. Il y avait vraiment ce mouvement permanent des instituteurs, qui était un peu contradictoire avec l'idée qu'il fallait les enraciner dans une localité. Et les instituteurs vivaient très mal cette obligation de mobilité permanente. L'AOF, à l'époque, c'est très grand. Il faut transporter ses livres. Les transports ne sont pas si faciles sur un espace aussi grand. Au milieu de la saison des pluies, c'est des modes de vie compliqués. Donc on a dans les enquêtes qu'on a étudiées, dépouillées, des enquêtes de satisfaction, entre guillemets, des instituteurs, menées par les autorités, pour savoir un peu comment se passait leur service. Ils se plaignent assez largement, en fait, de leurs conditions matérielles de vie dans les différentes localités. Et donc, une envie, c'est tous d'être nommés à Dakar ou à Saint-Louis ou dans les grandes villes, voilà, où ils peuvent mener plus grand train, où ils peuvent avoir l'espoir aussi de trouver des compagnes éduquées comme eux, alors que dans les villages, ils trouvent qu'il n'y a pas de compagnes éduquées pour eux, etc. Donc, il y a toute cette envie d'ascension sociale, de vie urbaine des instituteurs qui fait qu'en fait, leur expérience dans les terroirs, malgré tout l'enseignement sur la nécessité de s'enraciner dans un terroir, va être assez souvent mal vécu.
Merci beaucoup. Et donc, en fait, vous avez parlé des livres, donc ça me fait une transition. Vous ouvrez effectivement l'introduction de cet ouvrage autour de la notion de bibliothèque coloniale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une bibliothèque coloniale, en fait, éclairer un petit peu là-dessus, puisque c'est très, très important, je pense, dans l'ouvrage et pour ces instituteurs, justement.
Tout à fait. Alors, en fait, il y a un deuxième livre dans le livre. Le premier livre, c'est vraiment sur cette politique scolaire coloniale et comment les carrières d'instituteurs des instituteurs. La deuxième partie du livre, c'est vraiment le rôle des instituteurs dans la production des savoirs ethnographiques et historiques sur l'AOF. Et en fait, comment les instituteurs africains ont participé à la production, à la coproduction de la bibliothèque coloniale. Donc, ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale, après les travaux de Valentin Yves Moudimbé, c'est en fait tous les savoirs produit à l'époque coloniale sur les sociétés colonisées. Okay. Donc il y a eu quantité de travaux sur ces bibliothèques coloniales. Et on oublie un peu souvent que cette bibliothèque coloniale n'a pas été uniquement produite par les savants coloniaux européens, mais que les producteurs locaux des savoirs, là en l'occurrence les instituteurs africains, ont été les chevilles ouvrières et ont été des participants actifs de cette production des savoirs de la bibliothèque coloniale. Alors vous me direz pourquoi ? Pourquoi ont-ils participé ? Ben tout simplement parce qu'ils étaient incités déjà par les autorités scolaires à produire des travaux ethnographiques et historiques. Et pourquoi étaient-ils incités à le faire ? Justement au nom de l'idéologie des petites patries et de l'adaptation scolaire, il fallait en fait trouver du matériel adapté pour enseigner en classe. Parce que c'est bien beau de dire, vous allez enseigner l'histoire du Soudan, vous allez enseigner l'histoire du Dahomey, mais il faut le matériel pédagogique pour ça. Donc c'est les instituteurs africains qui étaient incités à prendre leur stylo, leur feuille de papier, et aller faire du terrain après les cours, les week-ends, etc., pendant les grandes vacances, pour mener des recherches ethnographiques, faire des monographies sur leur localité, pour justement remplir un peu les leçons. Et ils ont effectivement fait ce travail. Et on s'est intéressé, du coup, notamment à une revue qui publiait ces monographies, qui est le bulletin de l'enseignement en AOF, qui est devenu en 1934 l'éducation africaine. C'était cette revue où tous les instituteurs africains et ou métropolitains pouvaient envoyer leurs travaux ethnographiques et historiques. Et comme ça, il y avait un partage des connaissances. Cette revue était lecture obligatoire dans les écoles, et donc ça permettait aux instituteurs d'utiliser le travail d'un collègue sur la région de Tombouctou pour son cours sur le Soudan, d'un autre collègue sur la région du sud d'Ahomey, etc. Donc il y avait vraiment cette production assez massive de savoir par ces instituteurs. Par exemple, sur le simple bulletin d'enseignement en AOF, c'est plus de 250 contributions qui ont été écrites par les instituteurs africains entre 1913 et la Seconde Guerre mondiale. Donc on a quand même une masse de textes qui avait été un petit peu oubliée par l'historiographie, qui avait été assez peu étudié de façon systématique, parce qu'on s'est intéressé plutôt aux livres, en fait. Dans l'histoire intellectuelle de l'époque coloniale, on s'intéresse aux livres produits par exemple, Senghor, par Ousmane Sossé Diop, ou par d'autres personnes, et on s'intéressait peu aux articles de revue. Et en fait, un des objectifs du livre est de rappeler qu'il y avait une prolifération textuelle, en fait, à cette époque, à travers les revues, et non uniquement à travers le modèle canonique du livre.
Oui, ça fait une masse documentaire effectivement gigantesque. Et ce qui est très intéressant effectivement, c'est que vous ouvrez l'ouvrage, c'est original, sur deux témoignages également, qui montrent bien cette articulation entre effectivement transmission et production des savoirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux témoins, justement, ces deux grands témoins par lesquels vous ouvrez le...
Alors effectivement, l'introduction commence par deux citations qui ont un point de vue totalement différent sur cette littérature des instituteurs de l'entre-deux-guerres. La première est celle de Senghor, qui rend donc Léopold Sédar Senghor, qui est devenu par la suite président du Sénégal, qui lui n'était pas instituteur, qui a eu un cursus intellectuel tout à fait particulier, mais qui a décidé, après 1945, de rendre hommage à ses travaux des années 30, produits en Afrique occidentale française par les instituteurs africains, pour montrer qu'il y a eu tous ces travaux. Mais cet hommage est un peu ambigu parce qu'il la qualifie de littérature d'instituteur. Donc c'est à la fois un hommage en montrant que ces instituteurs qui n'avaient pas beaucoup de sous, qui n'avaient pas beaucoup de temps libre, parce qu'ils étaient aussi souvent sollicités par le commandant pour faire les campagnes de vaccination, pour faire le recensement, pour aider au chef-lieu, etc. Donc dans des conditions très difficiles, ces instituteurs ont produit un savoir. Mais Senghor nous rappelle que la portée de ce savoir est assez modeste, parce que c'est ce qu'il appelle donc cette littérature d'instituteur. Mais il rend quand même hommage à cette génération de pionniers, finalement, qui sont un peu des pionniers de la négritude, et on reviendra là-dessus peut-être.
C'est la forme de condescendance qu'on retrouve même, enfin qui n'est pas, qu'on retrouve par exemple entre universitaires et érudits locaux, par exemple.
C'est Senghor, agrégé de grammaire, qui rend hommage à cette production d'instituteurs, mais rappelle leur statut
académiquement,
que ce n'est pas des vrais universitaires, bien sûr, ce sont que des instituteurs pour Senghor. Et le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'un homme politique guinéen, Nener Ali Camara, Condéto Camara, qui lui est un militant nationaliste de la Guinée de Sékou Touré dans les années 60, et considère que cette première génération d'intellectuels africains a produit une littérature finalement de collaboration avec l'ordre colonial qui n'a peu d'intérêt. Au moment où il écrit, dans les années 60, il considère que cette littérature est idéologiquement compromise, que c'est une littérature d'aliénés parce que produite en contexte colonial et qu'il faut donc un peu l'oublier parce qu'elle est un peu honteuse, un peu embarrassante. Et il propose du coup des nouveaux types de savoirs qui sont nécessaires à l'époque du nationalisme des années 60. Il faut s'affranchir des savoirs coloniaux. Et dans les savoirs coloniaux, il inclut, mais un peu injustement, ces savoirs des instituteurs africains de la période avant lui, donc ses aînés. Et il rejette en bloc tout ce qu'ils ont produit. Or, ce qu'on a voulu proposer dans ce livre, c'est de montrer que cette littérature des années 20 et 30 par les instituteurs africains disait beaucoup de choses et n'était pas uniquement un discours de ratification de l'ordre colonial, n'était pas uniquement des textes d'aliénés. Bien au contraire, il y a beaucoup de choses à y trouver dans ces textes, y compris de critiques subtiles de certains aspects de l'ordre colonial dans le cadre étroitement normé qu'étaient ces savoirs produits par l'époque coloniale. Donc, ce qu'on a voulu montrer par cette introduction, c'est pourquoi ces savoirs avaient été un peu oubliés. Pourquoi, finalement, ce que cette génération d'entre-deux-guerres a produit, pourquoi on l'a oublié au profit de savoirs plutôt tardifs, qui sont les savoirs nationalistes des années 60.
Oui, parce qu'il y a une vraie signification politique dans cette démarche de production de savoirs, à la fois du côté donc, du colonisateur et de ceux qui écrivent, évidemment, décolonisés.
Mmh. Effectivement, ces savoirs coloniaux sont un objet politique pour les autorités, puisqu'il s'agit de mieux connaître les sociétés étudiées, pour mieux les contrôler, mieux les dominer. Donc il y a une vision tout à fait utilitariste et pragmatique de ce savoir par les autorités coloniales, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, que des savants coloniaux et des instituteurs métropolitains aient pris plaisir à cette ethnologie. Bien sûr, il y a aussi des passions ethnographiques qui se développent. Ce n'est pas uniquement du savoir utilitariste pour l'administration, mais quand même globalement la justification pour le développement de ce savoir par les autorités pédagogiques et scientifiques en OF, c'est produire du savoir utile. Utile pour la classe, pour la pédagogie adaptée en classe, utile pour l'administration coloniale, pour mieux connaître ces sociétés. Mais du côté de ceux qui réalisent ces travaux, donc les instituteurs, il y a aussi une dimension politique de ce travail qui va se développer petit à petit. C'est que petit à petit, en faisant une ethnographie des sociétés autour d'eux, les sociétés là où ils sont en poste, ou leurs sociétés d'origine, ils vont prendre conscience, bien sûr, de la situation coloniale. On ne leur demande pas, et c'est assez intéressant dans les consignes, on ne leur demande pas de parler du présent colonial, on ne leur demande pas de parler de la situation coloniale. On leur demande plutôt de faire une ethnologie et une histoire de l'Afrique précoloniale. On leur demande pas, par exemple, de parler des élites modernes et intellectuelles, etc. On leur demande de parler des traditions, en fait, vraiment de les ancrer dans ces petites patries qui renvoient au passé. Sauf qu'on ne peut pas faire l'ethnographie d'une localité sans aussi, au moment où on fait son ethnographie, se rendre compte de, par exemple, de situations économiques particulières liées à la situation coloniale, etc. Donc, petit à petit, les instituteurs vont, en fait, développer des tactiques d'écriture assez intéressantes qu'on essaye d'étudier minutieusement dans le livre. Des tactiques d'écriture où, sous couvert de célébrer l'œuvre coloniale, ils vont en fait porter des critiques sur certains thèmes particuliers de façon assez subtile pour montrer qu'ils sont capables d'esprit critique sur la situation qu'ils observent. Et petit à petit, certains d'entre eux vont aller plus loin encore. Ils vont commencer à proposer un dialogue avec les savants coloniaux, ce qui n'est pas forcément facile. Il faut imaginer un instituteur comme Mambi Sidibé ou Philly Dabo Sissoko, qui sont des instituteurs jeunes dans les années 20 et 30, qui disent qu'ils vont critiquer ce que De La Fosse, administrateur colonial et ethnologue reconnu, a écrit, et ils le critiquent au nom de leur savoir propre, vécu, incarné, avec l'idée qu'eux connaissent mieux telle société parce qu'ils en sont issus. Donc toutes ces affirmations de légitimité à produire un savoir qu'ils vont opposer au savoir produit par les savants coloniaux. Et donc ils vont proposer des débats et des critiques des savoirs coloniaux. Et donc, tout ça pour dire que cette littérature est bien plus complexe, remplie de nuances, que l'image qu'on veut en donner de littérature uniquement d'apologie, si vous voulez, du système colonial.
Elle est complexe, et vous le montrez très bien, elle est également évolutive, hein, puisque dans la dernière période, en particulier, vous montrez comment ces instituteurs coloniaux peuvent devenir, évidemment, ce qu'on appellerait des résistants ou des opposants au système. Et c'est également très, très, très éclairant, hein, comment à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en gros, en fait, on a un changement quand même de rapport, en fait. Hein, le rapport de force évolue aussi, à la fois au niveau des savoirs et au niveau des individus.
Tout à fait. Et là, c'est là peut-être que les autorités des années 20 et 30 qui ont mis en place la ruralisation de l'enseignement et les formes les plus radicales d'adaptation se sont peut-être trompées. Ils espéraient, en fait, en sponsorisant dans les années 20 et 30 une génération d'instituteurs qui feraient l'apologie du terroir et des traditions, ils espéraient que ces instituteurs seraient du coup anti-assimilationnistes et ne prétendraient pas aux droits politiques comme les citoyens sénégalais des quatre communes. Donc il y avait vraiment l'idée de mettre sur pied une élite contre-assimilationniste par ces instituteurs. Or, en fait, les instituteurs se sont révélés les plus les agents, les vecteurs de la politisation à partir des années 40, les plus actifs. Il y a eu un peu un retournement, si vous voulez, de cette élite par rapport au rôle qui lui était assigné par le colonisateur. Et les instituteurs, c'est très intéressant, à partir des années 40, enfin, l'ouverture commence en 37 avec le Front populaire, mais dans les années 40, sous Vichy, c'est là que vraiment les instituteurs se politisent le plus et vont être les fers de lance de mouvements nationalistes. Mais pas que. On retrouve les instituteurs au moment des années 50 dans tous les partis, donc les partis les plus opposés à l'indépendance, comme les partis les plus farouchement pour l'indépendance, à partir de 56, en fait, les instituteurs vont être un peu partout. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils vont être les élites politiques naissantes de cette époque. C'est pour ça que le Mali des indépendances a été qualifié la République des instituteurs, parce que si vous prenez l'appareil dirigeant qui prend le pouvoir au Mali en 60, plus de 70% est composé d'instituteurs. Donc vraiment, ces instituteurs vont être une classe, si vous voulez, vont être des réseaux politiques importants au moment des indépendances.
Et alors les filles dans tout ça ?
Alors, effectivement, dans le bulletin de l'enseignement en AOF, sur toute la période qu'on a évoquée, il n'y a que deux textes écrits par des femmes. Tous les textes sont écrits par des hommes. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas, sur le début de la période qui nous intéresse, d'institutrices femmes africaines, puisque l'école pour filles de Rufisque est créée en 1938 seulement. Et c'est une école pour filles, mais qui forme les filles à devenir sages-femmes. Et certaines vont devenir institutrices, certaines vont devenir écrivains, par exemple, ou écrivaines, comme Maria Maba, par exemple, qui est devenue une écrivaine célèbre au Sénégal. Mais l'idée était que les femmes devaient, par cette école, accéder à des statuts plutôt de travail ménager, professionnalisé, mais en tout cas, un travail ménager. Mais il y a quand même une femme, donc Madame Hawa Keïta, qui était directrice d'école à Bandiagara, qui, dans les années 50, écrit dans la revue, et elle écrit justement sur les relations hommes-femmes. Il y a eu tout un débat qui a passionné les instituteurs à l'époque sur les rapports, en fait, entre, comme j'utilise les termes d'époque, entre évoluer homme et évoluer femme. Parce qu'il y avait une complainte des instituteurs africains qu'il n'y avait pas assez de compagnes, je cite, évoluées selon eux, suffisamment en grand nombre. Oui. Et donc, eux étaient en faveur de la scolarisation des femmes pour des principes de généralisation de l'enseignement, mais aussi pour des raisons assez pragmatiques de pouvoir trouver des compagnes. Mais il y a certains des instituteurs qui, dès les années 40, dans une revue vichiste, appellent à la scolarisation universelle des femmes. Et aussi certains auteurs, comme Yacine Diallo, qui sera donc instituteur en Guinée et futur député guinéen, qui appellent à des réformes drastiques du mariage, de la dot, du divorce et de la polygamie, dans les années 30, dans des textes envoyés au bulletin de l'enseignement en AOF, justement. Textes qui n'ont pas été publiés, qui ont été corrigés ou expurgés, justement, des appels de réforme. Et c'est là que c'est intéressant de voir que certains de ces instituteurs étaient bien plus féministes, finalement, que les autorités coloniales. Et du coup, leurs textes ne sont pas toujours passés.
Ce sont donc les autorités coloniales qui les ont censurés, en fait.
Oui, hein, donc là, c'est un texte, en l'occurrence, de Yacine Diallo sur la condition de la femme en Guinée, en 1938. Et c'est Bernard Maupoil, qui est un ethnologue spécialiste plutôt du Dahomey, qui est en charge de recevoir le texte et qui considère que le texte est un pamphlet sur la condition des femmes et non un texte d'observation. Il y a l'idée qu'on doit toujours être dans l'observation des faits et pas prendre parti. Yacine Diallo est accusé de trop prendre parti, mais surtout est accusé de critiquer les chefs de canton. Parce que Yacine Diallo, donc instituteur guinéen, considère que les chefs de canton, donc ces chefs africains, mais relais de l'administration coloniale, parce que nommés par l'administration coloniale, accumulaient souvent plusieurs épouses, quatre et parfois plus pour certains d'entre eux. Et les instituteurs étaient souvent énervés de ce fait, considéraient que ça asséchait encore plus le marché matrimonial, et donc ils critiquaient beaucoup ces chefs de canton. Et donc ce qui ne plaît pas aux autorités coloniales dans ce texte, c'est que Yacine Diallo, finalement, appelle à presque une révolte des instituteurs contre les rouages de l'autorité coloniale que sont ces chefs de canton africains. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'après-guerre, Yacine Diallo deviendra député, affilié à ses filles, etc. Et en fait, il prendra lui-même quatre épouses. Donc il aura lui aussi une trajectoire de notabilisation particulière.
Oui, parce que vous montrez très bien comment donc ces instituteurs jouent aussi le rôle, pas uniquement, mais peuvent jouer le rôle de médiateurs coloniaux. Et effectivement, comme vous venez de le dire, entrer en conflit avec d'autres médiateurs coloniaux. Et vous montrez bien, effectivement, toutes les ambiguïtés de ces jeux de compromis, tout ce qui s'articule, en fait, dans ces sociétés coloniales extrêmement hiérarchisées. Et en même temps, comment le colonisateur s'appuie, effectivement, sur ces médiateurs.
Effectivement, et c'est là qu'il faut rappeler la complexité de cet ordre colonial, qu'on imagine un peu de façon trop simple, de façon chromatique, le colon blanc, les colonisés noirs. Justement, un des traits marquants des années 30 40-50, cette opposition importante entre élites lettrées et notamment instituteurs versus chefs de canton, qui pour beaucoup d'entre eux n'étaient pas forcément lettrés, etc., et étaient perçus comme trop conservateurs par les instituteurs africains, et étaient perçus comme moins éduqués qu'eux, puisque eux étaient instituteurs donc au sommet de la hiérarchie des études possibles à l'époque, et il y avait des chefs de canton peu éduqués, parfois analphabètes, qui avaient plus de pouvoir qu'eux localement, puisque le chef de canton africain à l'époque a beaucoup plus de pouvoir qu'un instituteur. Donc il y avait cette rivalité très forte entre eux, des conflits homériques entre eux, et ça, vous trouvez ça très bien raconté dans Amadou en Patéba, l'étrange destin de Van Grin, par exemple. Il y a tous ces conflits entre l'instituteur et le chef de canton, entre l'instituteur et l'interprète principal du poste, etc. Mais il y avait aussi des conflits entre Européens. C'est-à-dire que là encore, le champ administratif colonial européen n'est pas du tout sans clivage, bien au contraire. Il y a des clivages très forts en fonction des obédiences politiques au sein des administrateurs coloniaux, en fonction des obédiences francs-maçons ou plutôt catholiques, etc., qui fait qu'il y a des conflits politiques très forts entre administrateurs coloniaux et entre différentes strates de l'administration coloniale européenne, et des conflits très forts entre personnel administratif africain. Et donc c'est pour ça que ces luttes de l'administration coloniale sont tout sauf chromatiques. C'est plutôt des alliances entre certains Européens et certains Africains contre d'autres Européens et d'autres Africains, qui nourrissent un peu, si vous voulez, les tensions de cette administration coloniale à l'époque. Donc finalement, une concurrence entre les médiateurs coloniaux.
Alors, vous avez parlé aussi de l'école coranique. Alors comment se font, quelles sont les relations justement entre ces instituteurs et l'école coranique? Enfin, parce qu'on a effectivement, là, vous montrez très bien cette juxtaposition de systèmes concurrents, complémentaires, etc., qui montre aussi le côté, dans le meilleur des cas, pragmatique, dans le pire des cas, brouillon de la colonisation, hein, qui n'est pas justement, on parle d'ordre colonial, mais c'est souvent pas si ordonné que ça. Et ça transparaît très très bien dans votre ouvrage.
Alors sur la question de l'école coranique, effectivement, au début, les autorités pédagogiques coloniales savent qu'elles doivent composer avec, hein, donc il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'elles acceptent justement des élèves beaucoup plus âgés qu'ils ne devraient au cycle primaire colonial, parce que pour leur laisser le temps de finir l'école coranique. Il y a aussi des accommodements qui sont faits dans la journée, c'est-à-dire que vous êtes à l'école coloniale la journée, et le matin très tôt et le soir très tard, vous êtes à l'école coranique. Donc beaucoup d'élèves des années 30 musulmans ont combiné donc ces deux écoles, ce qui faisait des emplois du temps assez chargés, hein, de 4h30 du matin jusqu'à très tard le soir, pour combiner ces deux types de scolarisation. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, qu'en pensaient ces élèves de la comparaison des deux systèmes? Alors pour ça, on a heureusement quelques textes, puisque à partir de 1933, à l'école normale William Ponty, les élèves qui devenaient futurs instituteurs ou futurs administrateurs ou médecins devaient rédiger des devoirs de vacances ou des mémoires de fin d'études qui portaient sur un thème soit fourni par l'administration, soit de leur choix. Et plusieurs de ces textes ont porté sur l'école coranique. Donc ce sont des élèves apprentis normaliens, futurs instituteurs, qui eux-mêmes avaient fait l'école coranique, qui ont écrit dessus, et il y a toute une palette d'oppositions. Certains disent vraiment les deux systèmes sont pas comparable, j'ai beaucoup plus appris dans le système français, l'école coranique c'était du bourrage de crâne ou de la violence du marabout à l'encontre de ses élèves. Bon, et ça c'est un motif qu'on va retrouver dans la littérature africaine chez beaucoup d'auteurs, hein, chez Hamidou Khan, chez Empateba, etc. Mais d'autres vont aussi écrire que non, l'école coranique a été très utile pour les efforts de mémorisation, qu'ils ont notamment développé leur talent mathématique par la numérologie, et des efforts de mémoire grâce à l'école coranique. Et donc, ils écrivent que les deux systèmes leur paraissent tout à fait utiles et complémentaires, et que leur propre parcours témoigne du fait qu'on peut avoir un mariage heureux de ces deux systèmes d'enseignement. Et certains de ces instituteurs étaient effectivement arabophones, parce que justement, ils avaient fait des cycles approfondis d'études coraniques. Et du coup, ce Yacine Diallo, par exemple, encore en Guinée, était utilisé par l'administration pour intercepter les correspondances des marabouts, et en fait faisait le traducteur pour l'administration des correspondances, donc participait à la surveillance finalement de l'establishment maraboutique en Guinée par ses connaissances en arabe, grâce à l'école coranique.
Alors si on rentre un petit peu plus justement dans le fond de ces enseignements, hein, à la fois de la production et de la transmission des savoirs, quelles étaient les matières principalement enseignées? Comment est-ce qu'on concevait justement la formation d'un honnête homme africain en système colonial, dans l'ordre colonial?
Alors là, ça va être compliqué de répondre, parce que ça dépend effectivement
bien sûr, des âges, bien
du
sûr.
Niveau des âges et si on parle des écoles.
Voilà, tout à fait.
Mais... des quatre communes ou l'intérieur. Prenons les écoles de l'intérieur, voilà, parce que c'est là que le programme était adapté et différent.
Oui, voilà.
Mais là, il faut encore distinguer les périodes. Parce que selon les périodes, il y aura plus ou moins, par exemple, de travail manuel et de travail agricole. Parce qu'il faut savoir qu'Albert Charton, qui est donc inspecteur de l'enseignement entre 1929 et 1937, décide vraiment de ruraliser l'enseignement de façon assez radicale dans les années 30 et décide de développer l'enseignement agricole de façon exponentielle dans les emplois du temps, au point que certains des instituteurs vont se plaindre qui apprennent plus à planter des arbres que les mathématiques ou la langue française. Et que finalement, les écoles deviennent une espèce de champ surveillé où on passe son temps à travailler la terre pour devenir cultivateur plutôt qu'à apprendre les humanités. Bon. Donc il y a ces débats-là. Mais ça, c'est spécifique à la période des années 30 où vraiment l'enseignement va prendre un tour rural et manuel. Pour la période avant et la période après, l'enseignement ressemble assez à ce qui se passe en métropole, à part que l'histoire, la géographie, sont adaptés, c'est-à-dire qu'on enseigne l'histoire de l'AOF, l'histoire des différents royaumes africains de la zone, dans les premières années du cycle primaire, et seulement à la toute fin du cycle primaire, on parle de l'histoire de France. L'histoire mondiale, on n'en parle pas du tout, mais bon, ça, c'est pareil pour les métropolitains à l'époque. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on va gravir à travers les années au sein de l'école vers, finalement, la France et le centre de l'Empire, mais qu'on commence toujours par la localité, dans cet apprentissage. Et ensuite, il y a les mathématiques et le français. Et le français va être très important dans l'emploi du temps. C'est une des matières qui va être la plus importante dans l'emploi du temps. Et les travaux aussi sur le folklore et les proverbes. Ça, c'est développé assez tôt, grâce au bulletin de l'enseignement en AOF, dès 1916-1917. L'inspecteur de l'enseignement Georges Hardy incite les instituteurs à donner des proverbes différents proverbes africains, à étudier en classe par les élèves. Et c'est là que c'est intéressant aussi, certains de ces enseignements vont utiliser les langues africaines, les langues vernaculaires. Il n'y a pas ce tabou complet, contrairement à ce qu'on croise, avec l'idée que seul le français serait utilisable dans l'enseignement. Bien sûr, le français est la langue d'enseignement dans l'école coloniale d'AOF, mais localement, les instituteurs étaient incités à utiliser les proverbes dans les langues pour les étudier, à bien sûr les faire traduire en français, mais il n'y avait pas de tabou, disons, sur l'usage des langues africaines dans les matières spécifiées.
Ils étaient non seulement autorisés, mais incités, en fait, à éventuellement utiliser les langues vernaculaires.
Ouais. Et même à l'école normale William Ponty, Charles Béat, à partir de 1939, va développer un cours de littérature africaine, si on veut, où ces différents traditions orales et contes dans les différentes langues de l'AOF qui sont enseignées aux normaliens, avec l'idée qu'ensuite, une fois qu'ils auront le diplôme d'instituteur, ils vont pouvoir, en classe, développer ça.
Alors, le champ géographique en fait, de votre recherche, c'est l'AOF. Donc. Est-ce que, une partie de l'Afrique française, est-ce que justement ces enseignements visaient également à comparer la colonisation française, enfin à créer effectivement une sorte de comparaison en faveur de la France contre d'autres systèmes coloniaux? Est-ce qu'il y avait des regards justement sur ce qui se passait ailleurs, ou est-ce que c'était très fermé? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une politique, que moi j'ai pu rencontrer dans le Pacifique, de dénigrement de ce qui se passait du côté des Britanniques, hein, quand même, qui était pour montrer justement les qualités comparées par rapport non seulement peut-être à ce qu'il y avait avant, mais aussi à ce qui se passait ailleurs?
Ce que faisait le voisin, effectivement. Voilà. Il y a ça, mais c'est selon les périodes. C'est très frappant. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, alors là, il y a des textes dans le bulletin de l'enseignement sur la colonisation allemande comme étant une forme de barbarie cachée, etc. Donc là, très clairement, il y a une valorisation de ce que fait la France dans ses colonies par rapport au système allemand. Mais les autorités françaises critiquent donc l'Allemagne pour sa politique de colonisation, mais pas vraiment pour sa politique scolaire, parce que c'est compliqué pour les autorités de critiquer la politique scolaire allemande, puisque la politique scolaire allemande est une de celles qui justement a le plus encouragé finalement l'enracinement, l'usage des langues africaines, notamment le swahili en Afrique de l'Est. Et c'est un peu l'objectif que veulent développer les autorités. Hardy est dans l'idée qu'il faut lui aussi adapter l'enseignement. Donc c'est compliqué de critiquer. Par contre, les colonies belges sont ouvertement critiquées. Alors ça, les Français adorent, dans le bulletin de l'enseignement, critiquer la colonisation belge.
Mais ils sont très mauvais, non, sur le plan de aussi, les Belges, non?
Alors, sauf au Congo, il y a les taux de scolarisation primaire les plus élevés. Mais par contre, il n'y a rien après le
primaire.
Voilà,
c'est ça. Je crois qu'il y a six diplômés.
Voilà. Au moment de l'indépendance du Congo, il y a six diplômés des cultes supérieurs seulement au Congo.
C'est pas...
La Belgique a eu cette politique de tout mettre sur le... Un peu comme la Banque mondiale à l'heure actuelle, si on fait un peu, de mettre l'accent sur le primaire et du coup, le secondaire, et puis le post-secondaire passe à la trappe. Donc ça, la France critique. critiquée beaucoup. Et sur l'Angleterre, là encore, les colonies britanniques sont critiquées pour leur apartheid racial, pour la non-mixité sociale supposée, etc., y compris par les instituteurs qui ont des textes de commande par les autorités. Mais là, c'est une période très particulière sous Vichy. La semaine coloniale de 1941, les autorités demandent aux élèves à Ponty d'écrire des textes sur la colonisation française et de comparer aux autres colonisations. Et là, l'Angleterre en prend pour son grade qu'il n'y aurait pas de transport en commun mixte au Nigeria et en Gambie, que par contre, en AOF, tout est beau, tout le monde se mélange, etc. Donc bon, on voit que ce sont des textes de commande, bien sûr. Mais là encore, sur l'école, c'est compliqué de critiquer parce que l'école au Ghana, dans Gold Coast et au Nigeria, a été aussi pris pour modèle par les autorités pédagogiques françaises. Quelqu'un comme Albert Charton, par exemple, correspondait avec les responsables pédagogiques britanniques au Nigeria et au Ghana, et disait que voilà, les Anglais ont pris de l'avance sur nous dans l'enseignement du travail manuel, dans l'enseignement de l'histoire locale, etc. Et donc, c'était compliqué de critiquer sur cet aspect.
Oui, parce qu'il y avait, en fait, c'est ce que vous montrez très bien, il y avait effectivement une idéologie coloniale globale, mais il y avait aussi une pédagogie, une réflexion pédagogique et des pédagogues alors, qui prenaient leur modèle à la fois dans les métropoles et aussi dans ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces pédagogues, de ces théoriciens un petit peu de la pédagogie qui étaient quand même derrière toute cette politique scolaire ?
Donc là, effectivement, deux figures marquantes en AOF, Georges Hardy, 1913-1919, et Albert Charton, 1929-1937. Alors, Georges Hardy, c'est un personnage complexe, et je n'aurai pas beaucoup de temps pour développer, mais Georges Hardy donc, est lui-même fils de deux instituteurs, son père et sa mère étaient instituteurs, et il est nommé très jeune, en 1912, inspecteur général de l'enseignement en AOF. Et lui est vraiment pétri de cette idée qu'il faut l'adaptation, que l'enseignement métropolitain, les humanités, ça ne marchera pas en AOF, en raison de, je cite, l'infériorité raciale des élèves à qui cette école s'adresse. Donc, Hardy n'était pas du tout un grand progressiste, loin de là. Il était obsédé de psychologie raciale scolaire. Donc pour lui, il y avait des races scolaires. Il fallait vraiment adapter l'enseignement aux différentes races scolaires. Donc c'était ça un peu sa matrice idéologique. Et Hardy, après 1919, sera, entre guillemets, viré d'AOF par Blaise Diagne, puisque les jeunes Sénégalais se sont mobilisés politiquement pour mettre fin à la carrière de Georges Hardy. Et Georges Hardy va finir au Maroc, où il sera en charge de toute l'instruction primaire au Maroc, dans le Maroc, du protectorat, avec Lyoté. Et là, il va très bien s'entendre avec Lyoté, dans l'idée que la colonisation ne doit pas être déracinement, ne doit pas être assimilation, mais doit être au contraire approfondissement des traditions locales, marocaines, etc. Et à l'époque, au lycée français de Casa et de Rabat, un directeur qui s'appelle Albert Charton, qui lui va faire la trajectoire inverse du Maroc vers l'AOF, donc toute cette circulation impériale, où donc Albert Charton, qui a été... qui a commencé sa carrière avec Hardy au Maroc et qui a donc été, si vous voulez, endoctriné un peu par Hardy, enfin qui admire Hardy. Une fois qu'il est en AOF, il dit on va faire comme au Maroc, on va remettre de l'adaptation, on va remettre des petites patries, parce que là, vraiment, l'enseignement devient trop assimilé, ça ne va pas. Les humanités, ce n'est pas d'actualité pour nos élites, parce que si on enseigne les humanités, on va former des révolutionnaires. Il y a vraiment cette idée, cette angoisse. Et donc, par exemple, la Révolution française va être expurgée des manuels scolaires. Et pendant une période, à la fin des années 20 et début des années 30, parce qu'il y a l'idée que les élèves vont prendre modèle de la prise de la Bastille pour aller attaquer le poste et attaquer le commandant du cercle français. Et donc il y a l'idée qu'il ne faut pas enseigner cette partie du programme de l'histoire de France, il faut plutôt enseigner une forme de continuité historique des régimes français, depuis les monarchies jusqu'aux républiques, sans insister sur les ruptures, il faut insister sur les continuités. Toujours cette angoisse un peu de la révolte possible. Et donc, ce Charton, ce qui est intéressant de voir, c'est que sa carrière ne s'arrête pas à l'AOF. En 37, ensuite, il est nommé en Indochine, mais c'est lui qui est responsable de l'instruction publique en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, après son expérience coloniale, il est le représentant de la France à l'UNESCO sur les questions scolaires. Et c'est intéressant de voir que toute une quantité d'argumentaires français, impériaux et coloniaux des années 30 sur la nécessité de la pédagogie de l'adaptation, s'adapter au milieu de l'enfant, s'adapter à ses langues, etc., et à ne pas le déraciner, vont être recyclés par ces mêmes anciens administrateurs coloniaux français dans un nouveau discours qui est celui de l'UNESCO sur la diversité culturelle, sur la nécessité de pédagogie, là encore, qui partent de l'enracinement. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est eux qui ont inspiré cette idéologie de l'UNESCO. Bien sûr, l'UNESCO a une matrice intellectuelle bien plus importante, qui passe par l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, etc. Mais c'est intéressant de voir que ces acteurs de l'enseignement des années 30, de l'AOF, vont se recycler assez facilement en déhiérarchisant un peu leur discours dans le nouveau discours des années 50 sur « il faut la pédagogie adaptée ». Et l'adaptation va être présentée comme progressiste dans les années 50-60, Je vous renvoie au livre de Benoît Falaise, par exemple, sur
l'enseignement
de l'histoire en France, où il montre que c'est là encore dans les colonies que finalement, les colonies ont été un laboratoire de cette pédagogie de l'adaptation, et qu'ensuite, ça va être répercuté en métropole, à travers un discours progressiste et multiculturel, de, il faut s'adapter aux publics scolaires différents pour que l'éducation fonctionne bien. Or, c'était déjà les discours qu'on avait dans les années 30, mais avec une vision bien plus conservatrice. Donc c'est intéressant de voir ces trajectoires. Et en fait, Charton a écrit que, finalement, les autorités françaises faisaient de la prose comme M. Jourdain, sans le savoir. En gros, ils faisaient l'éducation de base type UNESCO, bien avant que l'UNESCO n'invente le concept d'éducation de base. Et c'est intéressant, et je conclurai là-dessus, de voir qu'une des figures sénégalaises marquantes, Amadou Maktarbo, qui est devenu secrétaire général de l'UNESCO dans les 70, était un instituteur dans les années 40 et 50, formé par cette école coloniale, et que c'est lui qui a piloté les programmes d'éducation de base au Sénégal dans les années 50. Et là encore, il y a des trajectoires intéressantes, et côté sénégalais et côté français, qui montrent une forme de continuité, finalement, de ce discours d'adaptation entre l'Empire et le monde post-impérial.
Oui, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre qu'en fait, les choses ne sont pas celles qu'on pense en général. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, avec des visées conservatrices, on peut produire un discours et des formes d'enseignement qui, par la suite, ont pu être jugées progressistes. Et c'est vraiment un des côtés très passionnants de votre ouvrage. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier cette très intéressante conférence. Et donc, si vous voulez venir faire signer...
Merci à vous d'être venu.
Smith. On fait une séance de signature.